tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos courses inquiétantes au milieu des requins toujours plus affamés. Alors oui, votre podcast préféré a pris un petit hiatus, parce que j'avais beaucoup de boulot, j'ai eu aussi des raisons personnelles, plutôt des bonnes raisons personnelles. Je vous rassure tout de suite, tout va bien, c'est simplement le temps. Le temps qui me manque, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ne vous inquiétez pas, au bout de 52 numéros et de 4 ans d'émission, eh bien il nous reste toujours autant de films à voir et l'enthousiasme est toujours là. Enfin l'enthousiasme avant de voir les films, parce qu'après... On a vu les films, c'est pas toujours la même chose. L'année 2022 a été encore particulièrement riche en films de requins. Pas vraiment un film exceptionnel, on va pas se le cacher. On en avait traité deux la dernière fois, on va en traiter encore un qui est sorti cette année. On ne va pas chômer et poursuivre le travail. À la fin de l'émission, nous verrons les gagnants du petit concours pour gagner les affiches de W9. 4 extraits audio, 4 films à identifier que nous avions mis dans le hors-sujet numéro 6. Le récapitulatif pour fêter les 100 films. Et je suis toujours surpris d'avoir plein de réponses avec les bons films trouvés. Il y a vraiment des spécialistes du requin qui continuent à suivre l'émission. Je vous en remercie. Alors, je vous rappelle quand même rapidement son principe. Nous avons tiré dans la boîte à requins deux films que nous allons passer sur le grill. En utilisant une méthode squalographique d'étude, c'est-à-dire squalesque et cinématographique, d'une rigueur absolument implacable, puisqu'il s'agit de déterminer les qualités du film. Ces qualités sont l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, de leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui fait un total de 18. Nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle. Et enfin, nous les reclassons de 0 à 20 dans une des 5 grandes catégories. Donc au-dessus de 16, on a un incontournable. De 12 à 16, on a un bon film. De 8 à 12, un film routinier. Mais enfin, déjà au-dessus de la moyenne, l'amateur du genre pourra y trouver son compte. En dessous de 8 et jusqu'à 4, on est dans le film nul. Et en dessous de 4, soyons clairs, c'est à fuir. Donc ne vous les infligez pas, c'est mon boulot, car c'est mon devoir et mon honneur de préserver mon auditoire et de lui sauver ce qui lui reste de santé mentale en évitant les pires crapuleries squalesques qui pullulent sur nos écrans. Alors, sans plus tergiverser, voyons les films que nous allons étudier aujourd'hui. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, une production de cette année, Shark Side of the Moon, de Greg Campbell et Tammy Klein, une production The Asylum qui envoie des astronautes affronter des hommes requins sur la Lune. Ouais, je sais ce que vous pensez, au visionnage c'est encore pire. Et puis, nous poursuivrons avec un film de 2003, Redwater, de Charles Robert Karner avec Lou Diamond Phillips, Christy Swenson et Coolio, où nous irons nous balader dans les bayous à la recherche d'un magot disparu, poursuivi par un requin bulldog assez vindicatif. Vaste programme donc, toujours d'une haute qualité morale et cinéphilique. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
This is Tabula Rasa Mission Control, all systems running at 100%. Starting main engine. Everyone ready to go to the moon?
Oh, we have a disturbance.
Great. Mission Control, do you copy?
You're
not getting back on course.
Great for that!
Let's
see that.
Captain, I think you should see this.
Back to the ship!
Why are there sharks on the moon?
Americans.
Welcome to them!
Henry!
Where did they take him?
We are going home.
You're from Earth?
Protect the ship at all costs.
It's either us or them.
Bon, depuis le temps vous me connaissez, je suis pas la personne la plus exigeante cinéphiliquement parlant, et en la matière, les petits malins de chez The Asylum ont tendance à tester ma patience et ma résistance à la douleur filmique, façon Cénobite dans Hellraiser. Et c'est pas leur livraison squalesque de cette année qui va me redonner confiance dans l'humanité, hein. 4 films, et que ce soit Swim, Meg Rising ou Shark Waters, on peut pas dire qu'ils se soient foulés pour essayer de nous remonter le moral et le niveau. Mais il faut bien leur reconnaître un point fort, c'est de nous sortir régulièrement un titre ou un concept qui attire l'œil et excite notre notre curiosité, même si on sait fatalement que ça va être nul au final. Mais quand on voit apparaître sur leur catalogue un Attaque sur Titan, un Planète Dune, un Bullet Train Down, un Titanic 666 ou un Top Gunner Danger Zone, eh ben ça titille fatalement la zona incerta, c'est-à-dire la zone de curiosité du cerveau, en espérant qu'un jour la science nous permette une ablation définitive de cette zone incertaine du cerveau qui me permettrait d'éviter de gaspiller ma vie à voir ce genre de film. Et donc quand en août dernier ils nous ont offert un Shark Side of the Moon avec des requins sur la face cachée de la lune, bah la réaction immédiate a été un mélange d'excitation et de consternation. La deuxième gagnant au final après le visionnage du film. Nous voilà dans les années 80 au cœur de la guerre froide où les soviétiques sont en train d'expérimenter un projet d'armée d'hommes requins génétiquement modifiés. Oui je sais, et si vous commencez tout de suite à poser des questions, ça s'en sortira pas. Comme de juste dans tout projet militaire secret nanar qui se respecte, les créatures s'échappent, mais un des scientifiques a réussi à les coincer dans une navette spatiale Buran qui les expédie sur la Lune. Je vous dis de pas poser de questions, nous sommes dans un monde où le programme de navette spatiale soviétique a fonctionné. Voilà, des hommes requins dans une navette spatiale envoyée sur la Lune. Alors à notre époque, une expédition américaine se crache sur notre satellite, côté face obscure, suite à une avarie dégommant au passage le seul satellite de communication qui leur permettrait de communiquer avec la Terre, et découvre que nos hommes requins, bah depuis les années 80, ils ont désormais une civilisation technologiquement avancée. Mais ne maîtrisant pas le vol spatial, quand ils découvrent une navette américaine, ils se disent qu'enfin ils ont un moyen de rentrer sur Terre et
tenter de conquérir le monde.
They abandoned me, and you did nothing.
I spared your life. They wanted to kill you, but I wouldn't let them. I knew the human would take you in. Weak, predictable humans.
My human has shown me more kindness from the very beginning than any hybrid ever has.
Think, Akula. You are the link between human and shark. I knew it then and I know it now. We need you.
That changes nothing. I know all about your plans.
We are returning home. To where we belong.
Not if you're going to kill all of humanity. I won't let you.
You can watch from here.
Voilà encore un de ces films où tout du long on se dit mais il y avait quand même la potentialité de faire quelque chose de rigolo, de faire quelque chose d'un peu sympa, sauf que c'est torché par l'équipe B de The Asylum. Parce que si on prend un peu les réals, Glenn Campbell c'est un technicien d'effets spéciaux depuis le premier film Star Trek quand même, hein, qui a été recruté pour son savoir-faire et devenir l'un des superviseurs d'effets depuis 2012 de chez The Asylum. Il a quand même supervisé 17 films en 2022, hein. Donc forcément, ben, comme il s'est mis à réaliser en même temps aussi, il a pas le temps de tout faire. Alors je reviendrai sur les effets spéciaux plus tard parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a partagé la réalisation avec Tammy Klein, qui, si on en croit son CV, est actrice sur plus de 80 films, responsable d'effets spéciaux sur plus de 120, mais aussi réalisatrice, hein, c'est son deuxième véritable film, responsable son, cascadeuse, mais aussi mécanicienne sur avions de chasse F-15 et F-16 et diplômée en criminologie experte auprès du FBI. Alors, il y a des gens qui sont actifs, hein, ça je peux pas leur reprocher, on a tous des domaines de compétences, moi par exemple j'ai dépassé le niveau 5000 à Candy Crush. Et donc, si on regarde un petit peu le CV et l'emploi du temps des deux réals, bah à force de faire tout à la fois, on finit par tout faire mal. Et là, je sais, le je m'en foutisme à tous les niveaux, bah, c'est la marque de fabrique de The Asylum. Il s'agit de sortir un film tous les 3 semaines. Pourtant, celui-là, par rapport au tout venant de la production The Asylum, on sent que par moments, il y a des éclairs. En fait, c'est à croire qu'ils ont claqué tout le budget pour les 10 premières minutes, et qu'après, bah, ils ont lâché. De toute façon, ils avaient plus de sous, ils avaient plus d'envie, ils avaient plus de moyens. Parce qu'il y a des trucs vraiment réussis, certains effets spéciaux, notamment de base spatiale, sont chouettes, et ne dépareraient pas, même dans de grosses productions. Et puis à côté de ça, bah, vous avez les hommes requins qui sont parmi les plus dégueulasses que j'ai vues de ces dernières années. Et vraiment, on dirait que c'est pas finalisé sur les ordinateurs, que les proportions sont aberrantes, le rendu des textures ne va pas, et les mouvements saccadés jamais fluides. Alors je vous parlerai même pas des intégrations dans des décors lunaires qui sont en fait des photos sur lesquelles on a posé les comédiens et les hommes requins, et c'est tout juste si on a essayé de les détourer. Et donc on oscille en permanence entre des trucs vraiment soignés, des images qui sont vraiment de bonne qualité, où on sent que les équipes d'effets spéciaux se sont fait plaisir, et dans la scène suivante, des incrustations qu'on refuserait dans une vidéo amateur sur YouTube. Donc, l'esthétique est très fluctuante, allant du pas mal à très moche. Quant au scénar, là on sent bien que les équipes d'auteurs, ils ont reçu une consigne, on a un titre rigolo, vous nous prenez une raison pour laquelle il y ait des requins sur la Lune, et surtout, il faut que le budget ne dépasse pas 500 000 $, donc, mollo sur les délires SF, vous remplissez ça au maximum de phases de parlotte. Donc la team scénar script se dit, ouais, on va pas s'embêter avec la véracité, hein. Le cochon de payant, il sait pourquoi il est venu. Donc je vous parlerai même pas de la gestion de la pesanteur lunaire, hein, qui varie complètement dans ses effets d'une scène à l'autre. Et encore ça, la pesanteur c'est rien, mais vous savez qu'on peut parler sur la Lune. Vous savez qu'on peut respirer sur la Lune avec juste un petit respirateur nasal.
How are they breathing?
I think they just spoke Russian?
Okay, first there are giant sharks, now there are Russians?
You think they're friendly?
The enemy of my enemy is my friend.
Americans.
Welcome to the moon.
Ouais, parce que globalement, on peut se balader sans scaphandre sur la Lune, hein, les radiations, la température, non. Objectivement, on va aller à l'essentiel, parce que voilà, c'est Shark Side of the Moon, et l'essentiel c'est d'être cool, et de faire des gros clins d'œil au public. Et pourtant, à chaque fois, il y a des petits trucs, genre, ils ont des scaphandres, à un moment, et ils sont chouettes les scaphandres. Alors je sais pas s'ils les ont récupérés d'une autre production, mais ils ont quand même des trucs qui ont une certaine plus-value. Sauf que c'est tellement fait à la va-vite, dans le but de fournir une belle bande-annonce et de garnir le catalogue de la chaîne de VOD gratuite Tubi, qui est le nouvel Eldorado des productions à petit budget, que l'on retombe continuellement dans l'ornière de The Asylum de ces 5 dernières années, faire un produit médiocre mais vendeur, pour le moins cher possible, et confier le tout non pas à des cinéastes ou des réalisateurs qui voudraient débuter, mais à des techniciens d'effets spéciaux, voire des techniciens de son ou de montage. Le film semble être conçu pour avoir le moins de personnalité possible, que ce soit une personnalité visuelle, parce qu'en fait on recycle énormément de visuels vus ailleurs dans d'autres films, ou de personnalité tout court, où émergerait la patte d'un cinéaste. C'est terrible à dire, mais la dernière chose de qualité qu'ils ont un petit peu faite, c'est la série des Sharknado. La série des Sharknado, quoi qu'on en dise, il y a un vrai réalisateur Anthony Seferante, il y a un vrai scénariste Sander Levin, qui ont la main sur leurs produits et qui peuvent donner une véritable continuité à l'ensemble. Et quand on se dit que Sharknado devient le haut de gamme de ce qu'on peut voir dans le film de requin, c'est quand même très très inquiétant pour la suite. Parce qu'on n'est pas là pour voir des grands films, on est là pour s'amuser devant une série B. Et même ça, ils n'arrivent plus à le faire. Même ça, ils n'arrivent plus à rendre leur sujet intéressant, en sachant que ce Shark Side of the Moon est l'un des moins pires de ceux que j'ai vu cette année de chez eux. Parce qu'au moins dans celui-là surnagent quelques visuels, le fait qu'il y a quand même beaucoup de scènes à effets spéciaux, là où d'autres films, je pense notamment au dernier Meg Uprising, on voit les requins promis du film moins de 30 secondes à l'image, hein, au total, le reste c'est que de la parlotte sur un bateau, là au moins, bah, on a des hommes requins, comme je vous l'ai dit, hein, avec un rendu absolument atroce, mais ils sont présents, on voit des vaisseaux spatiaux, on voit des poursuites, des combats. Il se passe quelque chose à l'écran, mais c'est tellement mal organisé, tellement mal rendu, que on se désintéresse très très vite de ce film. Exactement le genre de papier peint filmique que vous allez laisser en arrière-plan, et vous allez faire autre chose en même temps. Donc voilà, ce Shark Side on the Moon, c'est un des moins pires Asylum que j'ai vu depuis belle lurette, on va pas se le cacher. Et en même temps, c'est un film d'un inintérêt assez désarmant, que je ne peux clairement pas vous conseiller, même si c'est pour rigoler. Au pire, voyez les 10 premières minutes, quand les requins s'échappent de la base russe, et puis quelques dialogues un peu débiles entre les astronautes américains. Et puis voilà, ça sera suffisant, vous tapez pas l'intégralité du film pour ça, hein. Que mon sacrifice n'ait pas été vain.
Maybe. Wait till dark. Plot a detailed course with the stars.
Oh, it hurts. Why, oh, baby, it hurts.
Where does it hurt?
Come on, wave.
Well, I just breathe, deep breath. Akula, did you maybe have any sort of relationship with any of the shark hybrids?
What? No!
Akula, I think you're pregnant.
What?
How is it possible?
Automatic parthenogenesis? Sergei mentioned it happening to the other sharks. Akula, push! It's adorable.
Oh, great. Now we have another mouth to feed.
That's the son of a bitch. These teeth are sharp.
Nicole, I've got to take care of my babies.
En envisageant les qualités scolographiques de Shark Side of the Moon. Originalité, en cours d'acquisition. Voilà, au moins on peut leur accorder ça. Il y a un concept rigolo, même si je regrette qu'il n'ait pas fait d'allusion au disque des Pink Floyd. Voilà, ils ont réussi à trouver un nouveau jeu de mots qu'on n'avait pas encore fait avec Shark. C'est déjà pas mal, parce que l'histoire, elle est insuffisamment acquise, hein. Alors je lui accorderai ce point uniquement parce qu'ils ont réussi à trouver un prétexte pour envoyer des requins sur la Lune, mais c'est con comme la Lune. Une fois que les astronautes américains sont arrivés sur notre satellite, on est surtout à se balader d'un coin à l'autre. Vous en avez qui se font capturer et emmener dans la civilisation des requins, pour que ceux-ci comprennent qu'il faut attaquer la navette spatiale pour la récupérer et retourner sur la Terre. Pendant ce temps-là, les astronautes américains rencontrent un savant russe, seul survivant de ceux qui avaient participé à l'expérience et qui s'est retrouvé lui aussi sur la Lune, et qui a une fille, moitié humaine, moitié requin, qui s'appelle d'ailleurs Akula. Ça veut dire requin en russe. Et donc j'espérais pendant tout le film qu'elle était docteur. Docteur Akula. Je vous laisse réfléchir 2 minutes là-dessus. Les personnages, ils sont insuffisamment acquis, ça joue pas très bien, mais bon, par des acteurs qui sont du gabarit de troisième rôle dans des séries télé, et qui savent parfaitement de toute façon pourquoi ils sont là, et ce qu'ils doivent jouer. Alors le seul qui s'en sort un petit peu, qui a un petit peu de bouteille, c'est Ego Mekitas qui joue Sergueï, le savant russe qui se retrouve sur la Lune, et dont la filmographie repose essentiellement sur le fait qu'il joue soit des espions russes, soit des mafieux russes, soit des militaires russes. Donc oui, le rôle globalement il le tient. Il n'y a pas de souci. La réalisation insuffisamment acquise, il n'y a pas de secret, quand tu mets à la réalisation un responsable des effets spéciaux en fin de carrière, tu vas pas avoir quelqu'un qui va révolutionner le cinéma. Non, il est là pour faire au plus vite un film qui soit cohérent, tenir les budgets et surtout intégrer les effets spéciaux. Et comme il n'a pas le temps de le faire vraiment bien, ça explique qu'il délègue à une autre réalisatrice une partie des scènes, et donc au final on a un produit qui n'a rigoureusement aucune personnalité. L'ambiance, alors là c'est carrément non acquis, alors j'aurais pu mettre un point pour le début, voilà, qui laisse un peu plein de mystère, mais comme j'ai déjà mis dans l'histoire, je vais pas lui remettre. Parce qu'après le crash de la navette américaine sur la Lune, on est vraiment dans du remplissage, du film de couloir, où ça se court un peu après, ça discute beaucoup. Il y a peut-être juste la scène de fin, qui est un peu rigolote, mais là encore, c'est surtout pour nous promettre une suite potentielle, et ça, on n'est pas pressé de la voir. La qualité des requins, bon, alors là, c'est carrément non acquis, on est en 2022, des effets spéciaux pareils sont inexcusables. Ça devrait être interdit, voire carrément passible de poursuite, tant c'est de la tromperie sur la marchandise. Non, franchement, les effets spéciaux sont tellement moches, on aurait cru un Marvel. Et pourtant, Dieu sait que du film de requins, The Asylum, il en a produit beaucoup, donc des modèles 3D, ils en ont. Si c'est pour fabriquer des hommes requins, essayez au moins de les faire proportionner. Et même l'incrustation sur les fonds verts, on a vraiment l'impression qu'ils ont sorti la version de travail non finalisée, comme si c'était un bêta-test. Non, au final, on arrive à 5 sur 20, je rajouterai rien, c'est nul, c'est vraiment nul, et pourtant, c'est un des meilleurs The Asylum que j'ai vu depuis 2-3 ans. Ça vous donne le niveau de désespoir qui me gagne en voyant la liste des films qui sont encore à traiter. Et c'est ce qui me sidère toujours, c'est que ce modèle économique y continue à fonctionner, et même quand j'ai regardé un petit peu des critiques aux États-Unis, le film n'a pas été si mal reçu. Donc dès comme ça, on risque d'en bouffer encore longtemps. C'est peut-être pour ça que le film suivant, Redwater, remontant en 2003 et avec des vrais décors et des effets pratiques, m'a franchement paru comme une bouffée de fraîcheur. C'est marrant comme à force de manger son pain noir de régime avec des productions fauchées stéréotypées gavées d'effets spéciaux numériques à la ramasse, n'importe quel film qui ressemble déjà à un film et qui fait un minimum d'effort a des allures de brioche. Bon, pas un singe-nid, faut pas exagérer, mais au moins une brioche vendéenne. En tout cas, retour au temps glorieux des vidéoclubs avec une production qui n'était pas encore gangrénée donc par le tout numérique, encore que s'il y en a un petit peu, mais juste un petit peu, et qui s'offre un casting assez solide, un scénario à peu près original pour l'époque et un filmage en décor réel. Nous voici en Louisiane où on signale un requin sur la côte qui vient grignoter du baigneur. Les autorités s'inquiètent un peu parce qu'il n'attaque pas au bord de la mer, mais il attaque au long des fleuves, car il s'agit d'un requin bulldog capable de respirer dans l'eau douce. Alors vous allez me dire, c'est pas super original, on l'a déjà vu dans Swamp Shark, dans Ozark Shark, dans Dam Shark. Sauf que là, je crois bien que c'est la première fois qu'on utilise ce concept, et donc surprise, ça marche. Et en termes de film de requin, donc c'est la première utilisation du requin bulldog. Donc nous avons un gentil requin qui vient semer un peu le dawa dans les bayous. Parallèlement, nous suivons John, un ancien spécialiste des forages pétroliers, qui, suite à un accident tragique, a quitté le métier et s'est reconverti dans la balade pour touristes dans les bayous, et qui est contacté par son ex, qui a besoin de ses compétences pour aller vérifier une petite plateforme de forage dans les bayous qui semble avoir des soucis. Pendant ce temps, un petit groupe de malfrats débarque dans le coin, bien décidé à récupérer un butin de 3 millions de dollars qui aurait été immergé par un complice voulant échapper à la police. Tout ce petit monde se retrouve donc en plein cœur du marais, attaqué par le requin et devant faire face à la fois à l'avidité des criminels et aux ennuis de la station pétrolière. Ça va vite se mettre à chauffer.
Ceci est notre contrat de location. Il nous donne l'exclusivité d'exploration de toute l'anse.
Nous ne venons pas chercher du pétrole. Nous sommes venus nous détendre en faisant de la plongée. Nous serons partis d'ici là.
Monsieur, je vous ordonne de quitter ce secteur immédiatement.
Tu nous donnes des ordres, bouffon? Des flics? T'es une crevure d'embaffée de petits poulets?
Hey. C'est bon, Jim. Laissez-les faire leurs affaires.
Veuillez retirer votre main. Je vais appeler la police.
Hé! Descends ton cul de cette échelle avant que je m'occupe de toi!
Tu donnes des ordres, bouffon?
Ça t'apprendra!
Super.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content?
Jim!
Il y a un autre Pékin qui veut s'amuser? Je connais plein de jeux, et des plus drôles encore. Vous voulez voir? Vous là-haut, descendez! Vous voulez que je vous fasse un dessin? Maniez-vous de venir ici!
Ça
et
va,
mettez les
va.
Mains en l'air! Les mains en l'air, tout le monde!
Arrête de gueuler!
Quoi?
Tu la fermes et tu écoutes.
Alors oui, je vais pas vous survendre le film, hein, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une petite production de série B qui fleure bon son programme de télévision ou son vidéoclub de 2003. Mais c'est déjà un tournage en décor naturel, rien que ça. Ah oui, certes, les marais de Louisiane ont été reconstitués en Afrique du Sud, mais bon, ça fait le taf, hein, rien à dire, faut le savoir ou être du coin pour voir la différence. Des effets spéciaux en dur. Oui, ils ont mis un requin numérique pour quelques plans rapides assez affreux. C'est les requins numériques de 2003. Autant vous dire qu'ils ont raison d'utiliser que sur quelques plans de raccord, hein, parce que ils ont sinon un bon vieux requin mécanique. Plutôt pas mal intégré à l'ensemble. Le réel, c'est clairement pas un foudre de guerre ou d'originalité, mais il a cette efficacité des routiers de séries télé qui savent tirer le meilleur du peu qu'ils ont. Charles Robert Karner, scénariste, producteur, réalisateur, qui a 40 ans de carrière dans des projets parfois complètement invraisemblables. Si j'ai le temps, faudrait quand même que je vous parle de Fantasy Woman's Battle, une espèce d'émission sur internet où il y avait des jolies filles qui, déguisées en elfes, en princesses égyptiennes ou en succubes, se tapaient dessus avec des épées. Je vous mettrai dans la description du podcast le lien vers le site de cette émission qui oscille entre le ringard et le racoleur, le ridicule l'emportant au point. Mais bon, tout ça pour vous faire comprendre que Karner, c'est pas quelqu'un qui va rester dans un livre de cinéma. C'est le pur mercenaire, il peut scénariser, il peut réaliser, il peut coproduire. Il fait ça depuis 40 ans dans tous les domaines. Mais au moins, contrairement aux auteurs de Shark Size of the Moon, on peut pas lui enlever une certaine qualité technique. Donc ce Redwater, connu parfois aussi sous le nom des Dents de la Mort, hein, au titre, à l'instar de beaucoup de séries B du début des années 2000, est une production télé, avec les fondus au noir pour les coupures pub prévues avec. Alors pour une fois, c'est pas sci-fi, mais c'est la chaîne TBS, petite chaîne du câble aux États-Unis, qui mise sur des produits vendeurs, hein, le film de monstre, et aussi sur quelques stars sur le retour, à commencer par Lou Diamond Phillips, qui avait connu brièvement la gloire à la fin des années 80 avec des films comme Young Guns ou La Bamba. Bon, après la suite de sa carrière, c'est plutôt La Bamba triste. Hein. Alors il y a aussi Christy Swanson, prototype de la jolie blonde, qui après quelques films comme La folle journée de Ferris Bueller ou la première version de Buffy contre les vampires, hein, vous savez, ce téléfilm dégueulasse, s'est reconverti dans le film de Noël, et puis ces derniers temps carrément dans le film trumpiste militant, tendance religieux, complotiste, flirtant avec QAnon, rejoignant ainsi toute une kyrielle de vieilles stars de série B déchues, hein, de Kevin Sorbo à Dean Cain, en passant même par Lou Ferrigno, enfin bref. Dès qu'on commence à explorer un petit peu le marigot de la série B américaine, on trouve pas mal d'acteurs qui ont viré droit tard, très très militants ces derniers temps. parfois par conviction, plus souvent parce qu'il y a une niche économique à prendre. Parmi le casting, on va retrouver aussi le regretté Coolio, qui a rejoint le Gangsta Paradise en septembre dernier, et dont la carrière filmique est une extraordinaire succession de nanars et de navets, de ptérodactyles à Dracula 3000, et qui nous offre un gangster pas du tout stéréotypé straight from the hood, la gâchette facile et bien décidé à récupérer le magot. Bref, plein d'acteurs connus qui savent dans quoi ils tournent, mais qui apportent quand même un certain professionnalisme et des visages connus auxquels on peut un peu se raccrocher. Que voulez-vous, je suis un sentimental. Alors oui, certains trouveront que j'ai une tendresse un peu exagérée pour ce film. Si je l'avais tiré au début de chaque parade, j'aurais peut-être descendu davantage. Mais à force de voir des cochons, c'était vraiment nul, eh bien, on finit par être indulgent avec un film qui a plutôt le cœur au bon endroit et quelques envies et références un petit peu sympas qui feront plaisir à l'amateur, comme cette voiture immergée dont les plaques d'immatriculation sont le célèbre Louisiana 007-981 qu'on retrouve dans les estomacs des requins des Dents de la Mer ou de Peur Bleue. Tout n'est pas parfait, les attaques de requins sont sporadiques. Pendant une bonne partie du film, on se concentre d'abord sur les péripéties policières des malfrats. Il y a de longs passages dans une fête cajun qui sert pas à grand chose, mais au moins, bon, le requin est là. Et toutes les 10-15 minutes, il vient nous faire une petite attaque réglementaire, histoire de relancer sporadiquement l'intérêt.
Vous allez où ?
Au lac Verrette.
Pour un accident de bateau ?
Non, ce que je vais te dire va te faire rire. On nous a appelé pour une attaque de requin. Alors qu'on ne trouve des requins que dans les océans. C'est un poisson qui vit dans l'eau de mer, dans l'eau salée.
Ouais, c'est vrai.
Et non, pas tous, John.
Pas tous ?
Il y a une espèce de requin qui peut survivre en eau douce. Le requin bulldog.
Ah, ça, c'est la meilleure. Tu vois, on apprend des choses tous les jours. Trempe pas tes pieds dans l'eau, John.
La deuxième partie du film, une fois que tout ce petit monde est au même endroit, c'est-à-dire à côté de la plateforme pétrolière, eh bien, est plutôt pas mal, jouant sur la tension, les bandits prenant en otage évidemment nos héros. Bref, on pourra reprocher une mise en place peut-être un petit peu longue, des personnages un petit peu stéréotypés, une réalisation propre mais sans génie. N'empêche que tout ça ressemble plus à un vrai film que la plupart des productions qu'on se tape de ces dernières années. Et ça, soyons clairs, c'est un plus-produit indéniable. En fait, tout le film sent le produit complètement calibré, fait par des routiers de télé. Des gens qui sont habitués à tourner vite pour pas cher, à l'image de la bande originale de Louis Febvre et Dominique Messinger, qui sont deux habitués de la télévision, et qui nous offrent une musique parfaitement fonctionnelle, avec tous les petits effets de cordes et de synthé attendus, qui fait son effet mais qu'on a entendu déjà 100 fois, et qui, je pense, a dû être pris dans un catalogue de musique préexistant. Rajoutez à ça quelques chansons cajun et vous avez votre aventure dans les bayous du samedi soir. Voilà, on a le prototype du téléfilm facile, mais fait à une époque où on essayait encore de faire des films qui tenaient debout et qui ressemblaient à des films. Et franchement, redécouvrir ce Redwater, d'ailleurs difficile à trouver en DVD. Le film a vite disparu des catalogues de télévision, je remercie Doumé de m'avoir aiguillé sur un DVD multilingue qui m'a permis d'avoir la version française. Pas trop cher, parce que je l'ai vu traîner à plus de 50€ sur certains sites de revente en ligne. Un petit film oublié donc, pas extraordinaire avec ses longueurs, mais qui mérite qu'on lui donne sa chance, ne serait-ce que pour sa dernière partie et sa fin assez originale. Eh bien ma foi, tout n'est pas perdu pour l'amateur de requins.
Reste tranquille.
John !
Que je reste tranquille ?
Oui, sinon il va te prendre pour une proie.
Que je reste tranquille !
Ne bouge pas, John, tu le sais, tu es un pêcheur.
D'accord, oui, d'accord, je bouge pas. Tranquille. Non, je me tire !
Non ! Ne te retourne pas, dépêche-toi, John !
Par là, lâche-toi !
Alors il est temps d'inspecter les qualités squalographiques de Redwater, alias les Dents de la Mort. L'originalité, c'est en cours d'acquisition. Le requin bulldog, c'est le premier à ma connaissance à avoir utilisé, et donc même si le concept a été beaucoup pillé et que quand on voit le film maintenant, on se dit oui, on connaît les requins qui nagent dans les rivières, c'est déjà pas mal. Il y a des idées, il y a son final qui est assez réussi, ma foi. On a vu bien plus bateau que ça. L'histoire, par contre, est insuffisamment acquise. Alors, c'est certes dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais là, quand même, on ressort beaucoup de poncifs, on ressort beaucoup de personnages très clichés, très stéréotypés, ce qui explique que les personnages sont aussi en cours d'acquisition. Alors déjà, bon, ils sont très, très stéréotypés, écrits au crayon gras. Je pense que le top étant le personnage de Coolio, mais qui en fait des caisses, en gangsta grande gueule à la gâchette facile. En Lou Diamond Phillip, il fait le boulot, il a l'air un peu triste par moments. Il doit repenser un petit peu à sa carrière. Christy Swanson, fait du Christy Swanson, c'est-à-dire qu'elle est jolie. Bon voilà, c'est jamais honteux, c'est jamais génial. La réalisation, elle est en cours d'acquisition. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fonctionnel, mais c'est un fonctionnel qui fonctionne. Ce qui est déjà plus que la moyenne des films de requins qu'on voit. L'ambiance, c'est insuffisamment acquis. Y a un gros déséquilibre entre une première partie très plan-plan, ponctuée par quelques attaques de notre squale, et la deuxième, où l'action commence vraiment, où il y a de la pyrotechnie, où il y a vraiment des scènes de plongée, des scènes de combat contre le requin, où celui-ci est un petit peu plus mis en valeur. Enfin, la qualité des requins, c'est en cours d'acquisition. Alors, il y a un étrange mélange entre des effets spéciaux numériques balbutiants, heureusement on n'en voit pas trop, des images de vrais requins, et un animatronique qui est plutôt convaincant. En tout cas, qui est bien filmé quand il s'agit de faire ses attaques. J'ai vu, là encore, bien pire. Et franchement, pour un animatronique d'une production fauchée de 2003, ça n'a pas à rougir, loin s'en faut, avec l'animatronique de l'année du requin, par exemple. Tout cela nous fait un petit total de 10, que je rajouterai un petit point. Total de 11, on reste dans le routinier, mais finalement, on a un film qui, avec la patine du temps, avec aussi la médiocrité de tous les autres, finit par remonter dans mon estime. J'en avais un vague souvenir de l'avoir vu en vidéoclub quand il était sorti à l'époque, et pas avoir passé un si mauvais moment que ça à l'époque, mais de l'avoir très vite oublié. Et là, en le revoyant, j'ai pris un certain plaisir. Comme quoi, je suis pas forcément toujours méchant avec les films de requins, à petit budget. Encore faut-il faire son travail convenablement, et il y en a beaucoup qui auraient à apprendre. Bon, il est temps de voir ce que nous avons tiré pour la prochaine émission, alors reprenons la boîte à requins. Alors tout d'abord, Apex Predators, alias Jaws in Los Angeles, de Raymond Vinzink Williams, un film de 2021 qui semble-t-il a coûté moins cher que le podcast. Oh la vache, ça va encore être du bon. Et puis... On retourne en 2011 avec Sand Sharks, les dents de la plage, de Mark Atkins. Et puis c'est le temps de voir aussi qui sont les grands vainqueurs du concours pour gagner les deux affiches, l'une format A3, l'une format A4, de W9. Et nous allons récompenser la rapidité car je vais prendre les deux réponses les plus rapides. Il s'agit pour la 3 de Philippe Poumarou et pour la 4 de Guillaume Babet. Ils m'ont tous les deux envoyé les réponses le jour même de la parution du podcast, c'est-à-dire s'ils sont plus rapides que moi. Il fallait reconnaître, dans l'ordre de leur diffusion, Cruel Jaws, Sharkman et Jersey Shore, Shark Attack. Bravo à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs réponses. Pour les gagnants, je vous demanderai de prendre contact avec moi sur le mail de l'émission, sharkparadepodcast@gmail.com, pour me communiquer vos adresses, et si vous voulez les affiches dans leur pureté immaculée, ou bien salopées par mon écriture de cochon de professeur, avec une petite dédicace. Et puis surtout, c'est pour moi un grand merci à vous tous pour votre fidélité, et puis pour votre gentillesse, pour mes divagations squalesques, pour mes retards, et pour le fun que j'espère pouvoir vous procurer, tout en ajoutant quand même toujours une dimension hautement cinéphilique, car quand même on est dans le film de requin, c'est pas n'importe quoi. J'en profite aussi pour offrir un exemplaire à Fabien qui tient la liste Letterboxd XD, et à Quentin qui tient la liste Sens Critique, ce qui m'évite toujours d'avoir à faire moi-même la liste. C'est un plus, vu la vitesse à laquelle je suis capable de produire mes podcasts. En tout cas, pour les recommandations, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, puisque j'ai déjà explosé mon temps horaire. Je vais me contenter d'un hors-série des podcasts Nanarland, où pour une fois je n'apparais pas, qui a été fait par Julien, Mathilde et François. Un hors-série True Crime, autour du parcours cinématographique et criminel de Saint-Docteur Gourmet Ram Rahim Singh Ji Insan, gourou pendant 25 ans d'une secte, la Dera Sacha Saoda, qui a fait des films à sa gloire absolument démentiel et qui s'avère en fait un criminel absolument dément qui règne sur une région qu'il a failli mettre à feu et à sang et qui a été mis en prison pour une toute petite partie des crimes odieux qu'il a pu faire. Je vous mettrai en lien du podcast, donc sur la page du site du podcast, les coordonnées pour retrouver cette série de 5 émissions absolument dantesques. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de faire un effort pour être beaucoup plus rapide pour le prochain numéro, parce que là, quand même, 3 mois d'attente, c'était beaucoup trop. Je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année 2023 à venir, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.